Radio Suisse Romande, le Grand 8.
Je ne sais pas très bien avec quelle laquelle des deux composantes repart le spectateur quand il a vu le film. Imaginez qu'après, ils vont se promener dans une clairière où il y a un pinson qui est en train de crever. Ils ont quel rapport avec ce réel-là quand ils ont été enseignés pendant 2h ou 2h45 par des moyens archi-sophistiqués de leur dire la même chose? Pas sûr que ça fonctionne aussi bien après. Tout le problème est là. On se dit aucune espèce ne disparaît parce qu'on vous la montre très très bien, alors qu'en réalité, tout crève.
C'était l'écrivain Christophe Galland, peine envolée lyrique, alors que nous débattions du succès mérité ou non du film Avatar. Un extrait, en tout cas, du Grand 8 d'hier. Bonjour et merci d'avoir choisi la première. Peut-être l'avez-vous remarqué, on en parlait à l'instant avec Eric Guévard-Affray. C'est un peu la tendance du moment. Il est désormais possible, en tout cas, de douter des travaux du GIEC dans les médias. De plus en plus de voix critiques émergent sur la forme des travaux du GIEC, mais aussi sur le fond. Quoi cela est-il dû? Eh bien, pour en parler, le Grand 8 a le plaisir de recevoir en duplex de Paris le scientifique français Serge Galland. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes physicien de formation. Serge Galland, vous êtes le directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez au sein du CREA de l'École Polytechnique de Paris. Et vous êtes, entre autres, l'auteur d'un ouvrage paru chez Plon il y a 2 ans, « Les scientifiques ont perdu le Nord », un ouvrage très référencé en ce moment. On va en parler d'ici quelques instants. Avec nous également ce matin, Jean-Claude Keller. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur EPFL, licencié en sciences physiques et professeur de physique au gymnase de Morges. Vous êtes, monsieur Keller, un fin connaisseur des travaux du GIEC. Soyez le bienvenu dans ce Grand 8. Reste que oser douter des travaux du GIEC, ou pire encore, douter du réchauffement climatique, ça vous offre souvent un aller simple à la vindicte populaire. Pour preuve, hein, il suffit de pianoter sur un site internet GIEC, commentaires, et vous verrez en tout cas des diatribes entre pro et anti. Parfois, ça dépasse le simple « je ne suis pas d'accord avec vous, cher monsieur ». C'est d'ailleurs ce qui vous inquiète, Jean Stone. Bonjour.
Bonjour, oui.
Vous êtes, Jean Stone, philosophe des sciences. Vous venez de publier une tribune sur le site du monde.fr où vous exprimez votre inquiétude, pour faire simple, sur ces réactions excessives et notamment sur les dogmes que le réchauffement climatique peut provoquer. Soyez le bienvenu. Précisons que vous êtes, Jean Stone, le secrétaire général de l'Université interdisciplinaire de Paris. Vous êtes également en duplex ce matin. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Notre existence a-t-elle un sens ?», un livre paru aux presses de la Renaissance. Sinon, dans cette édition, nous allons également revenir sur l'éventuelle décision de José Manuel Barroso qui, a-t-on appris hier, souhaiterait vouloir relancer le processus d'autorisation de la culture de 2 OGM controversés. Il est le très populaire et décrié maïs Mont 810 et la patate Amflora. Pour le président de la Commission européenne, il faut aller vite, très vite, car d'énormes intérêts financiers sont en jeu. Alors la frilosité européenne en matière d'OGM est-elle sur le point de changer? Faut-il s'en réjouir? Comment l'expliquer? On en parlera avec vous, Isabelle Chevalet. Bonjour.
Bonjour.
Chimiste de profession, formation, vous êtes avant tout la présidente d'Écologie Libérale.
Le Grand 8, Nicolas Esquiaou.
Et soyez bien évidemment les bienvenus dans ce Grand 8. Douter du GIEC, est-ce la nouvelle tendance? C'est un fait, en tout cas on le disait, hein, il est possible de critiquer, ou en tout cas de lire, on va dire, de plus en plus de critiques sur les travaux du GIEC. Alors, est-ce que moi j'ai dit tendance, mais est-ce que finalement, Serge Galland, c'est une tendance ou un réveil du monde scientifique?
Je pense que ce n'est pas le monde scientifique qui se réveille, c'est plutôt une attitude des médias qui a changé récemment du fait des certaines, je dirais, manipulations, malversations ou erreurs qui ont été révélées sur l'attitude du GIEC. Et c'est ça qui permet de découvrir aujourd'hui qu'un certain nombre de scientifiques remettent en cause l'attitude très arrogante du GIEC sur ces affirmations. Donc en fait, ce n'est pas tant un changement d'attitude de certains scientifiques, c'est plus le fait qu'aujourd'hui on peut les écouter, et ce n'était pas le cas il y a 2 ans.
Mais alors, quand on dit que Claude Allègre était un peu seul il y a 2 ans, c'est faux, en fait.
Non, il était seul à s'exprimer. moi j'ai commencé il y a 3 ans, j'ai eu une tribune dans Le Monde et j'ai été attaqué de façon assez impressionnante, et c'était assez exceptionnel. Donc en fait aujourd'hui, on donne la parole aux sceptiques et on a l'impression que c'est un renversement d'attitude. Mais non, c'est simplement qu'ils peuvent s'exprimer. Et là, on va aborder toute la question de la vérité scientifique, de l'attitude monopoliste du GIEC sur le climat. Et je voudrais, pour lancer le débat, dire d'emblée que la climatologie aujourd'hui n'est pas une science, même si elle utilise des techniques scientifiques, elle n'est pas une science dans la mesure où elle n'a pas encore défini des critères qui lui permettent de faire des prédictions dont la fiabilité a été évaluée par le rapport à l'expérience. Et en science, lorsqu'on se permet de faire des prédictions, et là, au niveau, on demande même de changer toute l'organisation du monde avec un côté catastrophiste, il faut quand même valider ses outils. Et leurs outils sont basés sur des modèles qui font tourner sur des ordinateurs, c'est très bien. Mais ensuite, il faut valider ça par rapport à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est la réalité du climat. Les temps caractéristiques de la climatologie étant de l'ordre d'une centaine d'années, on pourrait dire d'une cinquantaine d'années, il leur faudra faire plusieurs prédictions, les tester. À partir de là, on pourra en tirer un degré de fiabilité, de dire voilà, leurs prédictions sont avérées à tant de pourcents, ce qui veut dire qu'il faut attendre à peu près 300 ou 400 ans. Ce n'est pas une critique, ça fait partie de la nature même de leur domaine. Donc d'ici là, on doit trouver des façons de nous organiser, de réagir face au changement climatique, mais sans s'appuyer sur des certitudes qu'ils donnent, qui ne sont pas fondées.
C'est un peu le 90% de certitude, 0% de preuve, si je vous comprends bien.
Voilà, exactement. Aujourd'hui, quand le GIEC, c'est aussi, on rentre dans la notion de manipulation qu'ils ont, lorsqu'ils disent, nous disons qu'effectivement, nous ne sommes pas totalement sûrs et on prédit une fiabilité de 90%. Mais ces 90% ne sont pas le résultat d'un test sur des prédictions face à la réalité. Ces 90% sont le résultat de la mesure de la croyance des membres du GIEC sur la validité de leurs résultats. Et donc, on confond un degré de certitude de croyance par rapport à un degré de certitude expérimentale. Lorsque la météo vous dit « demain, il va neiger à 70%, », ce n'est pas la croyance des météorologistes. C'est le fait que, dans le passé, il y a eu des milliers de prédictions de situations analogues et dans 70% des cas, ça a donné de la neige. Donc on va vous dire « il va neiger demain », ce qui n'est pas du tout pareil.
Je vais faire un peu ma blonde, mais Monsieur Keller, c'est pas notamment le travail du scientifique de douter et de justement essayer d'aller de l'avant un peu à tâtons, ou je suis vraiment blonde?
Oui, alors tout à fait. Je peux rejoindre d'ailleurs ce que vient de dire M. Gallam au début, c'est qu'effectivement la science, elle se nourrit de doutes aussi. C'est Einstein qui disait qu'il n'y aurait jamais assez d'expérience pour valider sa théorie, mais qu'une seule suffirait pour l'infirmer, en fait. Donc la science se nourrit de doutes, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de certitude. Où je ne peux pas rejoindre M. Gallam, c'est quand il dit que la climatologie n'est pas une science. Là, tout de même, c'est évidemment une science jeune, qui est composé de climatologues qui sont des scientifiques tout à fait sérieux, qui prennent les choses avec recul, qui cherchent à valider leurs hypothèses avec des mesures faites, notamment ces dernières décennies par satellite. Enfin, on ne peut pas affirmer une telle chose. En climatologie, par exemple, climatologie du passé, on a quelques certitudes, notamment par rapport aux périodes glaciaires-interglaciaires. On sait que les périodes interglaciaires de réchauffement se déroulent très rapidement et que le CO2 joue un rôle d'amplification, que dans ce réchauffement, l'hémisphère nord se comporte très différemment de l'hémisphère sud et que le CO2 joue un rôle majeur pour le réchauffement de l'hémisphère nord. Et en climatologie du XXe siècle, par exemple, il y a une anomalie des températures entre 1940 et 1980. Et là aussi, on a quelques certitudes, notamment à propos de l'obscurcissement planétaire, de Global Dimming, qui explique très bien cette anomalie des températures. Donc dire que la climatologie n'est pas une science, ça ne va pas.
Tout ça pour expliquer qu'effectivement, c'est vrai, à quoi ça avance finalement dans le débat d'une certaine façon? Je vous pose la question honnêtement, Monsieur Calme, de dire que voilà, la climatologie n'est pas une science, et puis que est-ce que c'est l'argument essentiel pour dire que voilà, les travaux du GIEC sont à mettre en doute?
C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que lorsqu'une science, quelle qu'elle soit, vient vis-à-vis du monde entier, des citoyens et des politiques, et dit nous avons des preuves de ce qu'il va arriver dans le futur, et voilà ce qu'il faut faire, sinon nous allons à une catastrophe. Il faut se poser la question de quel est le degré de validité de cette science. C'est lorsque je dis que la climatologie n'est pas une science, c'est pareil de dire que l'histoire n'est pas une science. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment que l'histoire est une science, évidemment que l'économie est une science. Mais ce sont des sciences extrêmement différentes de la physique, de la chimie. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu dans le jargon de recherche de science dure et de science molle. Lorsqu'une science dure veut faire une prédiction, elle doit avoir fait ses preuves. Et aujourd'hui, la climatologie n'a pas fait ses preuves pour venir face au monde entier et dire on est certain de ce qui va arriver et il faut agir en conséquence. Donc ça, c'est ça qui est très important. La deuxième chose, c'est sur le fonctionnement, le principe même du GIEC. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les climatologues qui travaillent au sein du GIEC, on va dire que ce sont des gens sérieux et qui cherchent à avancer dans leurs recherches. Mais n'oublions pas que le GIEC est une structure politique qui a été créée pour étudier les conséquences de l'activité humaine sur le climat. C'est ça le but. Et en science, on sait très bien que lorsqu'on veut définir un processus de synthétisation pour arriver à décréter une vérité qui va englober l'ensemble des travaux qu'on considère, par principe même, on va laisser de côté ce qui paraît négligeable, ce qui paraît minoritaire. Et en science, comme l'a rappelé monsieur, un seul fait scientifique, un seul résultat expérimental, contre des milliers d'autres, peut remettre en cause toute une théorie. Ce qui veut dire que ce principe même de synthétisation est anti-scientifique. Et il faut là aussi rappeler que la science est amorale, la science n'est pas démocratique, la science ne se construit pas par consensus ni par majorité, elle se prouve. Et c'est là tout le problème. Alors que le GIEC, sur son organisation, dit « on va vous dire quel est l'état aujourd'hui de la science climatologique et en plus, on a suffisamment validé nos modèles pour vous dire on est certain de ce qu'on affirme. »
D'autant plus que le fonctionnement même du GIEC est remis en cause. On va peut-être revenir aussi, non pas trop sur les termes techniques, mais aussi sur le fonctionnement même du GIEC qui, comme vous le soulignez, Jean Stone, dans cet article, je le disais, que vous avez publié sur lemonde.fr, vous revenez vraiment sur ce scandale qui a fait couler pas mal d'encre dans les pays anglo-saxons et pas trop notamment dans la presse, dans la presse francophone, sur notamment le financement de ces études. On parlait d'un des scandales du GIEC, c'était effectivement l'étude des glaciers himalayens. Là, il y a une erreur, parce que vous êtes les deux en train de foncer des sourcils ici autour du studio. Isabelle Chevalet, c'est vrai que c'est une erreur.
Mais bien sûr que c'est une erreur, mais il y a 400 pages de rapport, si on est des humains, on n'est pas des machines, mais on peut se tromper. Et d'ailleurs, il l'a admis, le président du GIEC.
D'accord, mais le président, le responsable du GIEC, c'est M. Pachauri. Et là, effectivement, l'autre scandale, c'est plutôt que, comme le soulignait M. Galam, c'est le financement.
C'est-à-dire, en fait, avant de parler de ça, effectivement, je suis d'accord qu'on peut tous se tromper, les défenseurs du GIEC le disent à juste titre, mais pour moi, d'abord, je suis un spécialiste de l'évolution des idées et non de l'évolution du climat, donc moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de pointer des attitudes scientifiques que je connais dans d'autres domaines et qui font preuve d'un certain obscurantisme, un certain obscurantisme scientifique. Évidemment, tous les scientifiques ne sont pas obscurantistes, mais il y a un obscurantisme scientifique. Exactement comme tous les religieux ne sont pas obscurantistes, mais il y a des obscurantismes religieux. Donc cet obscurantisme scientifique, il se manifeste dans les fameux emails qui ont été obtenus, certes de façon frauduleuse, mais qui n'en sont pas moins vrais, qu'on a appelé le climate gate, ce fameux scandale, auquel vous venez de faire référence. Et ce qu'on voit dans ces emails, on a beaucoup discuté, est-ce que ces emails prouvaient qu'il y avait des manipulations? Je n'interviens pas là-dessus. Ce que ça prouve de façon claire et nette, c'est que ces scientifiques, un certain nombre d'entre eux, pas tous bien sûr, mais autour de Phil Jones, donc des gens très importants au GIEC, ils complotent entre eux dans ces emails pour dire bon, il faut absolument empêcher la publication de ce papier, il faut absolument éliminer que ce papier ne soit pas publié, même s'il faut changer les règles pour qu'il ne soit pas publié. Ensuite, quand ils n'arrivent pas à empêcher la publication d'un papier qu'ils pensent pas comme eux, ils se tournent vers le directeur, ils disent « Ah, il faut essayer de virer ce directeur de revue ». S'ils n'arrivent pas à virer le directeur de revue, ils disent « Absolument ». Le niveau 3, c'est de dire « On va tous démissionner du comité scientifique de la revue, puisqu'on ne peut pas virer le directeur ou le faire virer, eh bien, on va la décrédibiliser ». Vous voyez, donc ça, c'est un premier type d'attitude qui sont clairement, pour moi, en tant que philosophe des sciences, ça trahit, si vous voulez, ce qu'on appelle un changement de paradigme. Le paradigme, c'est une vision du monde. Par exemple, la Terre est au centre du monde, et puis il y a des tas de petits défauts, et puis le paradigme se fissure. Alors les gens se raidissent, on crée l'inquisition, on condamne quelques gens au passage, etc. Et puis le paradigme change, voyez. Et là, je reconnais à ce genre d'attitude que y a quand même un problème dans la façon dont ces scientifiques, s'ils avaient si confiance en leurs résultats, ils ne se comporteraient jamais comme ça, c'est évident.
Mais à propos de ce climate gate là dont on vient de parler, mon préopinant, je pense qu'il n'a pas vu l'émission de France 5 A-t-on réchauffé les chiffres dans l'émission pas, j'ai plus le titre de l'émission, mais il aurait entendu Vincent Courtillot, qui fait partie des climato-sceptiques, enfin de ceux qu'on appelle les climato-sceptiques, il aurait entendu Vincent Courtillot dire que finalement c'était pas un problème, c'est cette question des emails. Et il avait dit que lui-même a été piraté, si on veut bien, enfin des emails. Donc même les climato-sceptiques disent arrêtons avec ces histoires de climat-gate. Comment voulez-vous que les auditeurs s'y retrouvent quand on dit des choses comme
ce que Courtillot a dit, j'ai vu cette émission et j'en profite pour dire que justement sur le fond, il est très important pour les auditeurs de chercher par exemple une conférence Vincent Courtillot, C-O-U-R-T-I-2-L-O-T, conférence à Nantes. Et vous verrez une très très belle conférence de Vincent Courtillot sur Internet.
J'ai aussi sur mon ordinateur l'émission de France 5. C'est dommage que je puisse pas, on n'a pas le temps de l'allumer, mais je pourrais vous faire entendre
tout le monde de se faire une idée phrase de objective en regardant cette conférence.
Qui dit que le climagate n'est pas un problème. Il est en face de Jean Jouzel et tout le monde est d'accord. Il faut arrêter de travailler sur le domaine des émotions dans un domaine qui relève de la science, monsieur.
Laissez-moi terminer juste un instant. J'ai dit que le climate gate, effectivement, quand les gens se sont focalisés sur savoir s'ils prouvaient des manipulations de données sur le fond, c'est-à-dire de savoir s'il y avait ou non, effectivement, des manipulations pour cacher un refroidissement au lieu d'un réchauffement, là, j'ai dit, je n'interviens pas là-dessus et il est effectivement possible qu'il n'y ait rien de ce genre dans le climate-gate. Par contre, je ne parle d'un tout autre sujet, je parle des attitudes des scientifiques vis-à-vis de collègues. Mais la deuxième chose qui est importante par rapport au GIEC et qu'il faut dire, et vous connaissez sans doute cela si vous connaissez les questions du GIEC, c'est des cas comme ceux de Chris Lancy ou de Paul Reiter qui étaient respectivement des spécialistes, l'un des tornades et l'autre un spécialiste du paludisme. Et vous savez ce qui est arrivé à ces deux personnes, grands spécialistes, on les invite au GIEC pour participer aux travaux. Et ils se rendent compte que dans le cas des tornades, pour Chris Lancy, on veut qu'il montre qu'en fait, s'il y a réchauffement climatique, il y aura beaucoup plus de tornades et d'ouragans. Et pour Paul Reiter, qui est un grand chercheur de l'Institut Pasteur à Paris, et on veut qu'il montre que s'il y a réchauffement climatique, il y aura beaucoup plus de paludisme, de malaria, parce que les moustiques survivront mieux quand il fera plus chaud. Or, leurs résultats montrent que ce n'est pas le cas, ni pour les tornades, ni pour la malaria. Donc deux sujets a priori qui n'ont rien à voir. Et dans les deux cas, ils se rendent compte, à leur grande surprise, que des personnes qui ne sont pas spécialistes vont prendre la parole au nom du GIEC pour dire « mais oui, il y aura plus de tornades s'il y a réchauffement climatique » et « mais oui, il y aura plus de malaria ». Et s'il y a réchauffement climatique. Et là-dessus, ils démissionnent du GIEC tous les deux, et vous pouvez trouver sur Internet Chris Lancy et Paul Reiter leur lettre de démission. Et le plus beau, c'est que Paul Reiter est un grand scientifique. Eh bien, on a gardé son nom. Il a dû menacer le GIEC d'un procès parce qu'on a gardé son nom alors qu'on disait exactement le contraire de ce qu'il disait.
C'est ces gars au GIEC, c'est juste de très très bons communicateurs, finalement, Isabelle Chenol. Et ça vous énerve pas, ça? C'est ce genre exactement de bonne attitude à faire dans le domaine du domaine scientifique.
Non, mais je veux dire, faut arrêter de monter quelques cas particuliers en épingle comme ça, ça ne fait aucun sens. Il faut aussi regarder la grande majorité des scientifiques, on ne peut pas mettre tout à la poubelle comme ça. Puis alors surtout, moi, ce que je relève, c'est que c'est le genre de débat stérile, parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on risque avec le réchauffement climatique? Eh bien, c'est catastrophique, alors cataclysmique. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien sous prétexte qu'on n'est pas sûr, ou bien on prend des mesures. Et prendre des mesures, c'est quoi? C'est renoncer au pétrole et au charbon, qui sont deux énergies qui nous rendent extrêmement dépendantes, qui, hormis les émissions de CO2, ont beaucoup d'autres polluants qui nous vraiment pourrissent la vie.
Donc, on se doutait.
Mais doutons. Mais le doute n'a pas d'être un argument pour ne rien faire.
Ça vous fait rire.
Là, je pense qu'on vient un des arguments qui crée la grande confusion sur le débat climatique, ce que vient de dire madame, c'est que justement, on mélange deux choses qui sont les dérèglements climatiques auxquels on aura à faire face et déjà auxquels on doit faire face. Comprendre leurs causes, c'est un problème scientifique aujourd'hui qui n'est pas résolu. En parallèle de ça, nous avons la pollution, des problèmes énormes qui concernent nos sociétés qui augmentent énormément, l'optimisation de nos ressources, l'inégalité des richesses, de leur distribution, de leur utilisation. Et on mélange immédiatement tout le temps les deux choses. Lorsqu'on commence à mettre en doute les affirmations du GIEC, on nous dit « oui, mais de toute façon, il faut bien réduire le CO2 parce que le pétrole est limité, parce que ci, parce que ça ». Mais ça n'a strictement rien à voir.
Mais, écoutez, la deuxième chose, et on en reviendra... Attendez, vous avez beaucoup causé, je crois qu'il y a une chose que j'aimerais dire.
l'OGM,
c'est que quand vous avez des émissions de CO2, vous avez aussi des émissions de polluants qui sont associées. Les mêmes produits qui émettent du CO2, c'est les mêmes produits qui émettent les polluants. Il n'y a pas deux catégories comme ça qu'on peut séparer. C'est exactement la même chose. En plus, c'est des produits qui nous rendent extrêmement dépendants de pays qui sont fortement instables, qui nous tiennent à la gorge.
Mais vous parlez d'autre chose du climat. Hein.
Mais je veux dire, pour moi, je vous ai dit que ce débat était stérile parce qu'à un moment donné, vous utilisez des doutes qu'on a pour ne rien faire. Et c'est ça qui est inacceptable. Et quand on voit certains climato-sceptiques...
Mais parfois, vous savez, ne rien faire, ça c'est aussi une fausse conception, justement.
C'est extrêmement intéressant aussi.
Exactement, bien sûr. Donc on va parler de deux choses. D'abord, de rien faire. On a toujours l'impression que rien faire ne coûte rien et que faire... Va nous sauver et sans risque.
Si
parfois,
vous permettez.
Ne rien faire va coûter, agir, je veux dire, va coûter beaucoup plus cher que ne rien faire. Je voudrais juste vous donner un exemple ça n'a rien à voir, mais qui est quand même important, à mon avis. C'est, prenez l'exemple de l'Irak, qui était aussi un principe de précaution, mais avec la croyance des services secrets américains qui étaient persuadés qu'il y avait des armes de destruction massive. Ils ont cherché des preuves qui n'ont en fait pas trouvé, mais ils avaient beaucoup de présomptions. Ils étaient dans un climat de certitude. Ils avaient la certitude qu'il y en avait. Et donc, ils sont arrivés à croire que leur certitude, leur croyance était la réalité. Et ils se disaient, de toute façon, on ne va pas prendre le risque de ne pas intervenir au cas où ils en auraient. Et on voit que ça a coûté beaucoup plus cher à tous les niveaux, l'intervention, que prendre le risque.
Je crois que ça n'a plus grand-chose à voir avec le climat.
On va terminer là-dessus.
C'est sur le principe de précaution.
Oui, mais s'il vous plaît, monsieur. J'ai été invité ici pour parler du climat. Je suis un scientifique, d'ailleurs, comme vous. Et juste en deux mots, on parle des gaz à effet de serre. Et la Terre, c'est une énorme machine thermique. Elle reçoit de l'énergie, elle en évacue. Et la communication avec l'espace au niveau de l'énergie, c'est que du rayonnement électromagnétique. Alors, sans entrer dans des détails, parce que les pauvres auditeurs ne s'y retrouveront pas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cause de la température moyenne de la Terre, en gros 15 degrés, on évacue cette énergie, la Terre évacue cette énergie en rayonnement infrarouge. Et il y a un spectre qui est tout à fait bien connu scientifiquement, qui est contesté par personne, et les gaz à effet de serre interceptent certaines parties de ce spectre, notamment vers 10 micromètres en infrarouge. Et ça veut dire que, sans vouloir entrer dans des détails techniques, mais plus il y a de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus il y a interaction sur l'énergie qui sort. Et donc, si vous interagissez avec l'énergie qui sort, vous interagissez sur le bilan énergétique. Alors, évidemment, il y a des doutes. D'accord. Évidemment, il y a des grandes incertitudes. Et c'est bien là-dessus qu'il y a débat. Mais que ça joue un rôle, ça ne se discute pas aujourd'hui. Personne ne le conteste.
Reste une chose est sûre.
Contrairement à ce que vous voulez faire.
Une chose est sûre, c'est qu'on continuera de déblayer la neige devant notre porte encore demain matin, car la météo nous a annoncé des chutes de neige. Il est 8h24 à l'écoute de la première. Merci de nous écouter dans le Grand 8. On va revenir dans les dernières minutes de cette édition sur un tout autre sujet, mais qui est quand même lié d'une certaine façon aussi avec le domaine scientifique et l'éthique. C'est cette déclaration, on a appris hier que José Manuel Barroso envisage de relancer le processus d'autorisation de la culture de deux OGM controversés. Il y en a un qui concerne le maïs, le Mont 810, et une patate, Amflora. Pour le président de la Commission européenne, il faut aller vite, très vite, parce qu'effectivement, il y a des enjeux financiers extrêmement important. D'autres pays vont nettement plus vite que l'Europe. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. On va peut-être pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais plutôt de comprendre pourquoi, d'un coup, eh bien, cette frilosité européenne connue des OGM est en train de s'estomper, de diminuer, de disparaître. Isabelle Chevalier, vous êtes d'accord déjà avec cette affirmation ou pas trop ?
Non, pas trop. Je crois que c'est vraiment... Il y a une frilosité de plus en plus grande envers les OGM. Il y a de plus en plus d'études qui sont en train de montrer les effets pervers qu'ont les OGM, et bien heureusement, on se réjouit d'ailleurs de voir le programme national de recherche aboutir sur ce sujet d'ici l'année prochaine normalement, et puis ça permettra d'avoir un peu plus de certitude par rapport à ça. Maintenant, il y a des choses intéressantes, c'est qu'on nous dit que les OGM vont résoudre la faim dans le monde. Et là, il y a un rapport d'experts, de plus de 400 experts avec près de 100 nations, qui s'appelle le concept d'une évaluation internationale des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement. Et ce rapport conclut que seuls seul l'agriculture biologique et l'agroécologie qui permettra de faire face aux défis alimentaires et aux changements climatiques liés évidemment à cette production agricole. Donc je crois qu'aujourd'hui les OGM sont tout sauf une solution à la crise alimentaire. C'est par contre un très très bon business comme vous l'avez mentionné.
Oui, c'est effectivement, et d'ailleurs pour José Manuel Barroso, politiquement il avait une sorte de problème. Hein. C'était Stavros Dimas qui était le responsable du domaine écologique qui maintenant a quitté ses fonctions. Donc il a on va dire une voie un tout petit peu royale pour mener à bien. Vous y croyez, vous, vraiment que l'Europe peut, du jour au lendemain, commencer une politique un tout petit peu plus offensive sur les OGM ?
Moi, je ne crois absolument pas que l'Europe va pouvoir y attaquer pour une simple raison, c'est les citoyens européens qui n'en voudront pas. Et je crois qu'il y avait une très jolie citation de M. Pascal Lamy de l'OMC, hein, qui disait que les États-Unis considèrent que les OGM ne sont pas dangereux jusqu'à preuve du contraire, alors que l'Union européenne estime qu'ils sont dangereux jusqu'à preuve du contraire. Et ça montre bien comment est-ce que chaque continent, chaque culture approche cette technologie.
Jean Stone, vous avez écrit sur les relations entre Dieu et les sciences, hein, en le disant au début de ce journal. Selon vous, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les OGM ?
Oui, c'est pas seulement une question effectivement sur des questions de, comme vous dites, de philosophique, mais effectivement, Serge Gam a très bien parlé tout à l'heure sur le principe de précaution. C'est-à-dire que le principe de précaution existe, mais on peut pas faire n'importe quoi au nom du principe de précaution. Donc, si vous voulez, dans un cas, si effectivement il faut chambarder toute notre civilisation parce que peut-être il y a un risque qui pourrait, dans certains cas, être très important sur le réchauffement climatique, etc. Bon, je crois que ça n'en vaut pas le coup. Mais par contre, sur les OGM, c'est une question de réflexion de bénéfice. Le bénéfice des OGM est peut-être un petit peu limité par rapport aux risques éventuels. Et donc, dans ce cas-là, autant je ne pense pas qu'il faille chambouler toute notre société sur la base d'un certain nombre de données dont on a vu qu'elles reposaient. Ce n'est pas des cas particuliers, c'est sur un ensemble de pratiques qui sont parfois vraiment extrêmement limites, voire caractéristiques d'un obscurantisme. Sur les OGM, la situation est quand même très complexe. Je ne vois pas aujourd'hui une nécessité immédiate, grandiose, d'avoir des OGM. Et j'insiste sur le fait que le vrai problème, c'est par exemple quand on brevette quand on fait des brevetés, on brevette une souris dans laquelle on a mis un gène qui lui permet de développer un cancer, par exemple, eh bien on n'a inventé ni la souris ni le gène. Donc je trouve que le brevetage est peut-être excessif dans ce domaine-là. Donc sur ce domaine-là, je serais effectivement plus ouvert au principe de précaution.
Je voudrais faire une remarque par rapport à la façon d'aborder le sujet. Plus que le sujet lui-même. Madame a dit 400 experts disent que. Je vous rappelle que sur le GIEC, pour prouver la validité de leurs affirmations, on disait 3000 scientifiques ont dit que. Une fois de plus, le nombre de scientifiques qui vont signer une affirmation n'est en rien une preuve de la validité de cette affirmation. Donc que les auditeurs aient bien ça en tête lorsqu'on leur donne des chiffres de dire. Demain, je vais vous dire, 20 000 physiciens ont décidé à l'unanimité que la gravité n'existe plus. C'est pas
vous,
pour ça qu'elle
vous,
elle
vous
aura...
Mais vous, êtes pour ou contre les OGM, et, si je peux vous poser la question telle quelle.
Alors, voilà. Bah, pour les OGM, je reprendrai aussi ce qu'a dit Madame sur la position entre l'Europe et les États-Unis, qui est de dire... Dans un cas, il faut prouver qu'ils sont sans danger, et dans l'autre cas, on n'a pas prouvé qu'ils avaient un danger. On ne peut pas prouver... l'inexistence de ce qui n'existe pas. Si demain je vous dis les fantômes existent, vous ne pourrez pas prouver qu'ils n'existent pas. Donc lorsqu'on veut appliquer le principe de précaution en disant il y a un nouveau procédé, il y a une nouveauté technologique, biologique, quelle qu'elle soit, et il faut prouver qu'elle est sans danger avant de pouvoir en faire l'étude, parce que c'est de ça dont il s'agit, on arrêtera tout. Parce qu'on ne peut pas prouver un danger qui n'a pas été avéré.
Effectivement, et là,
et donc,
là
on se trouve complètement coincé là-dessus.
Il faut quand même aller de l'avant, ou si ça c'est une possibilité à envisager, Isabelle Chevalet.
Mais bien sûr, mais vous ne pouvez pas balancer dans la nature des organismes génétiquement modifiés dont vous ne savez pas quel est l'impact, et surtout vous ne savez pas quel croisement il peut se passer avec la nature de manière irréversible. Et ça c'est totalement scandaleux. Quant à la recherche dans les laboratoires, j'y suis totalement favorable. Je soutiens le programme national nationale de recherche en Suisse, qui entre autres étudie les impacts des OGM, parce que c'est rien de chercher des nouveaux OGM, mais il faut aussi chercher quel est leur impact. Quant à votre première affirmation, c'est assez drôle parce que vous dites que ce n'est pas parce que 400 scientifiques disent quelque chose que c'est vrai. Je vous signale juste que vous avez aussi commencé votre intervention pour dire, par dire que nous sommes plusieurs climato-sceptiques à dire la même chose. Donc je peux vous retourner le
coup. Non, c'était pas ça que je mettais en avant, parce que le monsieur me disait, les scientifiques ont l'air de changer leur avis. C'est ça que j'ai dit, que simplement aujourd'hui on entend plus de sceptiques.
D'accord.
Et
oui,
évidemment, un scientifique peut changer. Mais
c'est
moi, je refuse, par exemple,
aux sceptiques qui ont raison aussi.
Non, pas du tout. D'ailleurs,
on est d'accord. On est d'accord là-dessus.
Il y a eu une
pétition aux États-Unis pour essayer de faire. D'accord. Ils ont fait signer des scientifiques climato-sceptiques et je suis tout à fait contre cette procédure. C'est pas combien. On n'est pas dans un rapport une fois de plus.
De force.
Ce n'est pas une question politique et démocratique.
Ce qui est bien, c'est que plus on est unique, plus on vend de livres on dit l'inverse de tout le monde.
Non, mais j'aimerais juste peut-être dans les.
Bah, je veux bien vendre des livres.
Dans le mot de la fin, dans les 30 dernières secondes, pour résumer, Jean Stone, c'est vrai, on illustre bien une demi-heure de débat qui montre. C'est difficile de dire qui a tort, qui a raison, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on est dans une période aujourd'hui où le monde scientifique peut-être a plus d'écho dans les médias et peut ainsi plus montrer les tenants et aboutissants de véritables mutations et de vrais changements.
Oui, non, ce qui est pour moi très important, c'est justement que ce débat ait lieu, et je vous remercie, parce que, encore une fois, en tant qu'historien des idées, je vois très bien dans de nombreuses périodes, on pense que la science est un long fleuve tranquille, c'est pas vrai du tout. Je faisais allusion à cette notion de paradigme, c'est-à-dire au fait qu'il y a des idées dominantes qui s'écroulent brutalement, donc vous voyez que la science c'est pas du tout quelque chose de calme, et donc ce qui est très important, c'est justement qu'on permette un vrai débat entre des personnes, évidemment, qui ont qualité à débattre. On va pas faire des débats avec des farfelus, des représentants de sectes ou comme ça. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a un certain nombre de scientifiques dans ce domaine-là auxquels on ne donnait pas la parole. Et c'est pour ça que c'est très important, par exemple, de lire le livre de Serge Galam.
Et de vous retrouver tous dans un prochain Grand 8. Merci à Serge Galam, merci à Jean-Claude Keller,
merci
à Jean Stone et à Isabelle Chevalet pour ce Grand 8 mouvementé. Il est 8h32. On retrouve